Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 30e émission, nous avons prévu pour vous une revue de presse en partenariat avec l'équipe de Faits et Documents. Nous recevons pour cela Vincent de la librairie Facta. Vincent, bonjour.
Bonjour.
Et puis, comme chaque semaine, chers auditeurs, je suis accompagné de Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation et qui participe également à la rédaction de Faits et Documents. Xavier, bonjour à toi.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Le dîner annuel du CRIF s'est déroulé à Paris le 7 mars 2016. Faits et Documents dévoile en exclusivité la liste des invités de prestige et le menu du dîner dans son numéro 412. Vincent, pouvez-vous nous rappeler l'histoire et le rôle de cette institution, s'il vous plaît?
Alors, le CRIF a été fondé en 1944, donc à la fin de la guerre. Il s'appelait à la base Conseil représentatif des Israélites de France, donc il regroupait des mouvements activistes juifs, donc des mouvements communistes, bundistes, sionistes. Et quelques années plus tard, donc, il a pris le nom de Conseil représentatif des institutions juives de France, où là, il regroupe une soixantaine d'associations juives de France. Et donc, depuis 1985, ils organisent un dîner annuel. Donc, en 85, il y avait juste une cinquantaine d'invités. Ils s'étaient réunis au Sénat. Et ça passait plutôt inaperçu. Et d'année en année, le fait que des premiers ministres y aillent, et à partir de Sarkozy, des présidents, donc là, il y a eu une plus forte médiatisation.
Une médiatisation qui a été aussi due à l'espèce de glasnost que nous vivons grâce aussi à Internet. Et à ce moment-là, le dîner est vraiment devenu un événement connu de tous. À ce moment-là, la première réaction a d'abord été de jouer la transparence en le télévisant. Donc ça a été le cas, je crois, en 2013-2014. Cette expérience n'a pas été reconduite. Alors l'année dernière, dans les médias, il a été dit que finalement c'était un événement mondain, un événement people, en masquant son côté politique. Et cette année, on n'en a pratiquement pas parlé, à part sur les réseaux sociaux, grâce ou à cause de ton agression. Et dans la grande presse, parce que Manuel Valls a assimilé antisionisme et antisémitisme, se détachant du discours qu'il devait initialement prononcer et qui avait été rédigé par François Hollande. François Hollande étant retenu à Bruxelles, c'est Manuel Valls qui a porté la parole de la République.
Alors effectivement, l'équipe de RTV s'est rendue à la sortie de ce dîner.
Courageusement.
Nous étions deux, mon cadreur et moi-même. Et nous avons commencé en fait une interview avec un monsieur très gentil de confession juive. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on se demandait comment je savais que cette personne était juive, tout simplement parce qu'elle portait une kippa et qu'elle me parlait en tant que juif. Donc on a commencé un débat, ça a duré 15 minutes. Une interview d'ailleurs qu'on filmait à peine, puisqu'en fait on filmait le sol. Et en pleine interview est arrivé Frédéric Aziza, donc le journaliste de LCP, chaîne publique parlementaire, pour interrompre l'interview et pour nous demander, en quelque sorte, de quitter les lieux. Et comme il s'est placé devant la caméra, forcément, on l'a filmé. Et il nous disait, arrêtez de me filmer, sinon je casse la caméra. Donc là, forcément, je me suis mis entre lui et mon caméraman. Et c'est là qu'il m'a frappé à deux reprises au visage. Attendant peut-être d'ailleurs que je réponde à cette attaque par des coups. Puisqu'on l'a vu par une autre vidéo qu'on a réussi à obtenir de quelqu'un qui a filmé la scène depuis l'extérieur. On l'a vu Aziza d'abord parler au chef de la sécurité qui était côté de la police, quoi, à l'entrée du dîner, et certainement pour lui dire, probablement, je vais aller les voir, si ils m'agressent, vous intervenez. C'était ça la stratégie. Donc bien sûr, si j'avais répondu, si j'avais donné un coup, je me serais retrouvé plaqué au sol et puis ensuite emmené en garde à vue, etc. Alors le truc très particulier de cette agression, c'est que la police, il faut savoir qu'elle se trouvait à 20 mètres.
Alors justement, je voudrais revenir là-dessus. Sur ta vidéo, on voit un déploiement d'effectifs de police extrêmement important, y compris des militaires, et qui sont secondés, il me semble, par le service de protection de la communauté juive, donc qui est en quelque sorte une milice communautaire, et qui filtre l'entrée du dîner avec les policiers. Quelle est la relation entre les policiers et le service de protection de la communauté juive au moment où tu fais ton interview? Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce qu'il travaille de concert?
Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que donc moi, on s'est fait agresser donc une première fois, je me suis pris deux coups à ce moment-là. Ensuite, Aziza repart, il est emmené par le chef de la sécurité, et là, on décide de continuer.
Mais qui est le chef de la sécurité du service de protection de la communauté juive?
C'est ça. Alors là, nous, on décide de continuer nos interviews, et en fait, on arrive à avoir une petite interview de Meir Habib, D'ailleurs, lui, qui a été plus malin que Frédéric Aziza.
Oui, qui est correct quand on écoute. Lui, oui. Lui, il est correct. Il sait qui vous êtes. Il dit, voilà, vous m'aimez pas beaucoup, je crois qu'il dit.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bon, voilà. Mais
non, puis la baston, c'est derrière lui, contrairement à Frédéric Aziza, qui est peut-être pas passé par cette case-là plus jeune.
Ensuite, j'arrive à interviewer Madar, qui a fait interdire...
Voilà, Alain Madar, qui est un grand propriétaire d'immobilier dans Paris, et qui avait fait interdire Dieudonné sur une affaire de location de salle, c'est ça. Il avait loué sa salle à Dieudonné, et puis finalement avait annulé son contrat.
C'est ça. C'est ça, donc lui, là, alors là, c'est les injures...
Oui, en fait, Dieudonné avait loué, il a fait jouer ce qu'on appelle le dol, en disant que, voilà, il n'avait pas été informé réellement de qui était derrière le... Je sais plus c'était quoi, les productions de la plume. Et donc, il avait trouvé une parade juridique, qu'on appelle le dol.
Donc là, c'est là qui dit que Dieudonné est une ordure. La vidéo est sortie sur le site d'Égalité et Réconciliation. Et là, j'ai à peine terminé cette interview, que Frédéric Aziza revient à la charge. Et cette fois, me porte un coup de pied à mon caméraman. Donc, face à ça, et comme les policiers cette fois étaient vraiment à 2 mètres de nous, je leur dis, mais pourquoi vous garantissez pas notre sécurité? Il y a quelqu'un qui nous agresse manifestement et vous faites rien. Et donc à ce moment-là, les policiers se retournent, on les voit fuyant dans la vidéo. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire qu'ils répondaient pas, ils n'ont pas cherché à interpeller Aziza. Aziza est reparti, puis il allait au dîner du CRIF tranquillement. Par contre, après, nous, on a eu un contrôle d'identité. Et c'est là que je dis aux policiers... parce que je vois les policiers communiquer avec la sécurité du CRIF. En fait, les policiers allaient discuter avec la sécurité du CRIF pour savoir comment traiter notre cas. Ça, je l'ai vu. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous me voyez dans la vidéo dire aux policiers, mais d'où vous prenez vos ordres, quoi? Et le policier me répond, on peut pas vous répondre.
Donc, une précision, Vincent. Le service de protection de la communauté juive, donc les responsables de la sécurité que tu évoques, donc cette milice est présidée par Eric de Rothschild, et c'est elle qui est chargée de fournir les chiffres officiels de l'antisémitisme au ministère de l'Intérieur.
Oui, en relevant les actes
alors,
que eux estiment. Voilà.
Alors, un manuel, donc justement le rapport du service de protection de la communauté juive est distribué lors du dîner du CRIF, nous le sommes procurés, et sont... répertorier toutes les agressions antisémites. Alors, je caricature à peine, si vous dites pas bonjour à votre voisin qui est juif, il y a déjà une ligne dans le rapport. Hein. Donc, c'est vraiment très, très, très large.
Alors ensuite, Frédéric Aziza s'est fendu d'un commentaire sur Facebook dans un exercice d'inversion accusatoire totale. Il explique que nous étions là pour les provoquer. Et qu'en fait, les coups qu'il m'a portés ainsi qu'à mon caméraman, c'était simplement un échange musclé. C'est comme ça qu'il le décrit. Et or, on a bien vu dans la deuxième vidéo qui nous a été communiquée par quelqu'un qui a vu la scène et l'a filmée, que Frédéric Aziza avait intentionnellement venu interrompre une interview. Moi, personnellement, je ne l'avais même pas vu, Frédéric Aziza, je n'avais même pas vu qu'il était là, pour nous agresser. Afin qu'on lui réponde, afin qu'on soit interpellé, afin qu'on soit mené en garde à vue et peut-être afin que Égalité et Réconciliation soit fermée. C'était ça l'objectif. Et ensuite, on a vu Frédéric Aziza nous accuser, donc accuser moi et mon caméraman, ainsi que Panamza, d'être des journalistes de Daesh. Donc ça, c'est un tweet qu'il a posté dernièrement sur Twitter. Et sur Facebook, il a expliqué... il nous a comparé directement à l'un des présumés terroristes de Bruxelles, qui en fait ensuite s'est avéré ne pas en être un, qui était un journaliste indépendant, un peu comme ce qu'on fait nous. Et il nous a dit, vous voyez, les journalistes indépendants sont amenés à faire des attentats. Donc en fait, c'est le fameux lien complotisme-terrorisme qui a été développé par...
Gilles Kepel.
C'est ça.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as échappé au pire.
Oui. Ce qu'on a vu dans les commentaires Facebook.
Voilà, parce que dans les commentaires en commentaire Facebook sur la page de Frédéric Aziza, Gilles Taïeb a écrit « Totale solidarité avec toi, Fred. Mon seul regret, ne pas avoir pu les corriger. » Alors donc, on va rappeler qui est Gilles Taïeb, donc, qui est vice-président du CRIF, aussi vice-président du Fonds social juif unifié, président de l'ABSI, qui est l'association du bien-être du soldat israélien, il est président de l'ASI, qui est l'association de soutien à Israël. Donc, voilà, je dis, ça donne une idée de leur fébrilité. Voilà,
et c'est lui qui a été visé par la sénatrice ou députée UDI Nathalie Goulet, qui a posé une question sur notamment le financement par des dons CERFA à des armées étrangères, et notamment à Tsahal. Donc elle a reçu des menaces de mort suite à cette question assez courageuse.
Oui, la question était simple. Quelle était la réglementation actuelle qui permettait aux Français, aux Françaises qui font des dons à l'armée israélienne, donc Tsahal, de défiscaliser leurs dons et d'avoir droit à 60% de réduction d'impôts? Voilà, une niche qui est payée par les contribuables français, quoi. Je dis, c'est une question qui se pose.
C'est exactement comme le dîner du CRIF, puisque les participants payent entre une somme qui est généralement estimée entre 400 et 900 euros et qui est déductible à 66% des impôts, donc comme don à une association CERFA reconnue d'intérêt public.
Ouais, donc, parce qu'à notre avis, c'est pas que les gens financent directement de Tsahal, c'est qu'ils financent une association française, loi 1901, qui doit être reconnue d'utilité publique, et qui, elle, reverse l'argent aux œuvres sociales, voilà.
Xavier, alors quels étaient les invités de ce dîner du CRIF?
Alors, on a récupéré la liste officielle des invités, qui est une liste qui n'est pas publiée, ni sur le site internet, ni sur quelconque support, ni dans la presse. Donc c'est une liste que Feuille et Documents révèle chaque année en totale exclusivité. Et c'est une liste qui est donc glissée dans le menu, qui est sur les différentes tables. Donc déjà, bon, on s'est procuré le menu, on était assez déçus, parce qu'apparemment on y mange assez mal au dîner du CRIF. Hein, donc là, cette année, c'était quoi? Du bar carré d'or, lycée d'aubergine, vinaigrette au citron confit, cabillaud au baie rose, lycée de carottes jaunes et vierge d'agrumes au baie rose, feuilleté de champignons, cratère de chocolat au lait et abricot caramello, abricot à la vanille, glace caramel et croquant de macadamia. Alors bon, quand il y a des termes comme ça techniques, on se méfie toujours, quoi. Quand c'est un bœuf bourguignon, on sait ce que c'est. Quand c'est une blanquette de veau, on sait ce que c'est. Mais moi, lycée de carottes jaunes sur les baies roses, je vois pas trop. Donc bon, non, au-delà de ça, ce qui est intéressant dans la liste du dîner du CRIF, c'est que c'est vraiment toute la République qui est là. C'est-à-dire que les ministres les plus importants, donc Manuel Valls, alors on a déjà dit Hollande ne pouvait pas être présent, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, le ministre de l'Intérieur, Patrick Kanner, on reviendra peut-être au cours de l'émission sur Patrick Kanner, Jean-Marie Le Guen, Jean-Vincent Placé, Harlem Désir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc tous les maires d'arrondissement.
De toute façon, faut pas oublier le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, qui eux sont là aussi pour représenter les assemblées.
Voilà, des parlementaires ou ex-parlementaires très liés à la communauté juive, notamment Julien Dray, qui vient toujours au dîner du CRIF, le sénateur de Paris David Assouline, ou les classiques comme Claude Goasguen ou François Pupponi. Et il y a tous les maires d'arrondissement. Donc tous les maires d'arrondissement de Paris sont là. Il y avait tous les candidats à la primaire républicaine, donc Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, etc.
Et
Bruno Le Maire, Nadine Morano. Et il y a surtout énormément de préfets de police. Et il faut savoir que la police est dirigée par les syndicats de policiers. Et les présidents des syndicats de police sont également présents au dîner du CRIF. Autre chose un peu surprenante, c'est qu'on retrouve dans cette liste un nombre impressionnant d'ambassadeurs de pays étrangers. Donc on se dit, s'ils sont ambassadeurs, par exemple, de Russie en France, leur interlocuteur, ça doit être la France. Or là, non, ils sont au dîner du CRIF. Donc c'est aussi un élément assez surprenant. Voilà, puis sinon, il y a des gens qui payent pour venir au dîner du CRIF, certainement pour faire avancer leur carrière, je vois pas d'autre explication de payer aussi cher pour manger aussi mal. Donc par exemple, on a vu entrer Smaïn au dîner du CRIF, ce qui était assez surprenant, ainsi que d'autres gens. Donc il y a toujours un certain nombre de journalistes. Alors on a vu, par exemple, on a vu Delphine Ernotte, Marc-Olivier Fogiel, Frédéric Aziza, qu'on a déjà évoqué. Ou par exemple, Dominique Rizet. Dominique Rizet, qui est le spécialiste police-justice de BFM TV, était aussi présent au dîner du CRIF. Donc c'est assez intéressant. Laurent Sourisseau de Charlie Hebdo.
Les deux, le grand maître du Grand Orient, le grand maître de la Grande Loge de France, qui on peut encore citer.
L'archevêque de Paris.
Oui, il y a toujours un ou quelques évêques et le représentant des protestants.
Et alors Xavier, qu'est-ce qui a été dit à ce dîner du CRIF?
Roger Kuckermann a demandé... Je cite, Monsieur le Premier ministre, des règles nouvelles doivent être imposées à Facebook, Twitter et Google pour freiner cette évolution. L'état d'urgence doit aussi s'appliquer sur Internet. Donc là, on comprend vraiment que ce qui dérange le CRIF, c'est Internet. Et c'est pour ça que la DILCRA, donc la délégation interministérielle, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est dotée de 100 millions d'euros, a été mise en place et finance un certain nombre d'opérations. Donc là, vous avez tous vu sur vos télévisions, par exemple, l'opération hashtag tous unis contre la haine, avec des clips donc, qui normalement devraient être des clips de la LICRA. Après tout, que la LICRA fasse ses propres clips, il n'y a pas de problème. Mais là, ils sont réalisés avec l'argent du contribuable, avec l'argent de l'État. Et notamment, a été organisé sur ces 100 millions d'euros de budget, la fameuse conférence de la BNF qui a été relayée sur égalité et réconciliation, donc une grande conférence à la Bibliothèque nationale de France, intitulée « L'antisémitisme en France du 19e au 21e siècle », donc avec organisée sur trois jours, avec une journée sur l'antisémitisme au 19e siècle, une journée sur l'antisémitisme au 20e siècle, et le troisième jour, l'antisémitisme actuel, avec Frédéric Aziza.
C'est ça ?
Qui a, une fois de plus, assimilé Alain Soral Dieudonné à Daesh.
Dans le Féédoc numéro 412, vous publiez des extraits du discours de Manuel Valls, qui a remplacé, au dernier moment d'ailleurs, je crois, François Hollande. Alors, ces extraits sont assez éloquents. Je cite « Nous savons qu'il y a un antisémitisme ancien et un antisémitisme nouveau. » Un antisémitisme d'extrême droite, mais aussi un antisémitisme d'extrême gauche. Il y a l'antisémitisme des beaux quartiers, il y a aussi l'antisémitisme dans les quartiers populaires d'une jeunesse radicalisée. Et puis, il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. La disposition visant à sortir les délits antisémites et racistes du droit de la presse pour les faire rentrer dans le droit commun figurera dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté soumis au Parlement au printemps. Les Juifs de France ont bâti la France. Xavier, un commentaire ?
Non, bah c'est du Manuel Valls, c'est ce qu'il dit depuis le début de... depuis 3 ou 4 ans, quoi, depuis qu'il est sous les feux des projecteurs, paraît-il, hein, suite à un remariage, mais bon, ça c'est peut-être une thèse complotiste. D'ailleurs, à ce propos, l'Obs, dans cette semaine, sort un papier sur l'Alma Chamber Orchestra, donc sa femme Anne Gravoin est violoniste, et Emmanuel Ratier avait commencé à enquêter justement sur l'Alma Chamber Orchestra. Un article avait été fait sur Égalité et Réconciliation, je crois, il y a environ un an et demi. Et là, l'Obs, donc qui est propriété de Pigas, Niel Berger, sort un article sur l'Alma Chamber Orchestra, reprenant notamment les informations relatives à ses liens avec un important marchand d'armes, le plus important du continent africain, qui s'appelle Horowitz, je crois, et sa société d'armement s'appelle Paramount, et c'est un gros marchand d'armes... sud-africain. Et c'est intéressant que l'Obs reprenne aujourd'hui ses accusations. Alors, sur les liens de Manuel Valls avec Anne Gravoin, bon, bah, beaucoup de choses ont été dites. Notamment, Roland Dumas avait pointé ça, puis s'en était suivi une polémique. Et là, récemment, un élu socialiste d'origine maghrébine a réévoqué ça et c'est tout de suite excusé platement, puisqu'apparemment c'est un tabou qui relève du complotisme.
Et alors, dans le fait document numéro 413, vous parlez d'un autre dîner qui est le dîner de la LICRA. Xavier, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, ça c'est pour sortir un peu du dîner du CRIF à proprement parler. Alors, le dîner du CRIF, c'est vrai que ça, c'est très important depuis 1985. Éric Zemmour l'a dénoncé comme la quintessence des réunions communautaires dans son dernier ouvrage, Le Suicide Français. C'est vrai que ça s'est imposé comme un événement majeur, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dîners du CRIF, c'est tous les soirs. C'est-à-dire que, par exemple, au cours du mois de mars, il y a eu le dîner de la LICRA dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, donc mis à disposition gracieusement, où on a encore vu l'intégralité de la classe politique, avec donc le dîner était présidé par Bernard Cazeneuve. Alors ça, c'était le dîner de la LICRA. Puis il faut bien comprendre, il y a aussi les conférences des amis du CRIF. Alors par exemple, le mois dernier, c'était Morano, le mois prochain, ce sera Macron. Ensuite, alors là, on va être en campagne pour les élections présidentielles, donc ça va être non-stop. Ensuite, il y a les antennes locales du CRIF. Donc si vous voulez, Estrosi, par exemple, va être reçu dans le sud-ouest, un tel autre dans le sud-est, un tel autre va être reçu dans telle autre antenne locale. Ensuite, il y a les loges du Mnébrite. Alors, il faut qu'ils aillent devant les loges du Mnébrite. Il faut bien comprendre que la vie d'un homme politique, c'est de passer sa vie à aller dans des organisations communautaires pour réclamer l'onction.
Et Xavier, alors, mais qui n'est pas invité à ce dîner du CRIF ?
Alors, les partis qui ne sont pas membres de l'arc républicain. Alors, il faut bien reconnaître qu'avant l'arc républicain, c'était à peu près tout, sauf le Front National. Comme tu disais, le dîner du CRIF, au début, comprenait des organisations, par exemple, bundistes, c'est-à-dire internationalistes, antisionistes, ce qui serait aujourd'hui les plus radicaux des trotskistes. Bon, aujourd'hui, l'arc républicain, c'est, disons, entre Manuel Valls et Alain Juppé. Ça s'est vraiment réduit comme peau de chagrin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communistes, il n'y a plus de verts, à part Jean-Vincent Placé, dont on a déjà parlé dans une biographie importante sur le site de son attachement réel à l'écologie. Donc là, évidemment, il n'y avait que l'arc républicain, et notamment le Front National, est toujours banni. Donc, Roger Cukierman, avant le dîner du CRIF, a dit « Quand on invite des gens, on a tendance à inviter plutôt ses amis. Je n'ai pas envie d'inviter les héritières de Jean-Marie Le Pen, ni sa petite-fille. Je considère que le FN est xénophobe, démagogique et populiste. Je souhaite éviter de fréquenter les gens avec lesquels je ne partage pas les valeurs morales et éthiques. » Et pendant son discours, donc ça c'était le matin du dîner, pendant son discours, le Front National joue sur les peurs et les angoisses de notre temps pour grossir ses rangs, tout comme ses ancêtres avaient joué dans les années 30 et 40 sur les peurs et les angoisses de la défaite. Derrière un nettoyage de façade, c'est dans ce parti que l'on trouve les nostalgiques de Pétain, de Vichy et de leur idéologie. Nous devons être exemplaires et sans faille dans le rejet des héritières de Jean-Marie Le Pen. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce discours. La première chose, c'est que Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, même s'ils considèrent qu'elles sont irréprochables, par le sang, elles sont intrinsèquement antisémites. C'est-à-dire qu'elles ont le sang antisémite qui coule dans leurs veines.
Elles ont une vision raciste
voilà.
Des choses.
Et le deuxième aspect, c'est le Front National héritier de Pétain et de Vichy. Alors, Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui avait expliqué que le Front National avait collaboré pendant la guerre, a quand même été condamnée. Alors, je crois que la peine était quand même assez minime.
Oui, c'est symbolique.
Quoi. Symbolique. Mais bon, on peut quand même pas raconter n'importe quoi. Surtout que, bon, le Front National n'existait pas. Jean-Marie Le Pen était enfant. Enfin, bon, c'est vraiment du procès d'intention intégrale. Et donc, pour s'amuser un peu, malgré toute cette actualité un peu déprimante, on a fait le portrait de Jean-Michel Baylet pour bien aussi rappeler ce qu'avait été Pétain, ce qu'avait été Vichy et ce qu'avait été la collaboration.
Voilà, alors ce Jean-Michel Baylet, Xavier, donc c'est un homme politique très introduit qui vient d'une lignée de politiciens de profession.
Voilà, ce qui était intéressant de rappeler dans son portrait, c'est ça, c'est que c'est une dynastie à la fois politique et économique dans le sud-ouest. Donc en fait, à la base, il y a Jean-Baptiste Chomeil, donc qui a été député du Tarn-et-Garonne entre 1906 et 1910, qui a été maire de Valence d'Agen pareil, pendant 25 ans jusqu'en 1930. Et donc lui était un homme d'affaires à l'époque et qui investit dans le journal qui s'appelait à l'époque La Dépêche. Donc il en était le directeur. Et à son décès en 1930, il place qui ? Son neveu. Donc son neveu qui s'appelle Jean Bellet. Et donc il le place à la tête du journal, mais son neveu reprend aussi les mandats, donc les mandats politiques. Donc il sera député de 45 à 58, il sera maire donc de Valence d'Agen de 1930 à 1959, donc c'est quand même long. Et il sera aussi conseiller général. Bon alors, il décède accidentellement dans... il a un accident de voiture, quoi. Il avait une belle voiture de sport, donc il décède assez jeune. Et là, qui prend sa place ? Sa femme. Donc on va rappeler un peu le... Donc sa femme qui est en fait donc Evelyne Bellet, donc née Isaac. Donc en fait elle est née à Batna en Algérie, mais il faut rappeler que donc c'est une famille juive alsacienne dont les grands-parents paternels avaient quitté l'Alsace en 1870 au moment de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne
pour s'établir dans le Constantinois,
voilà, en Algérie, où elle sera d'abord professeur de français, latin, grec dans un collège, jusqu'au moment où elle rencontre son futur mari. Et donc là, elle le rejoint. Et donc, à son décès, donc accidentel, elle prend la relève. Et pareil, elle prend la relève à la fois dans le journal, mais elle reprend les mandats politiques. Donc, elle sera, elle, donc maire de 59 à 77. Elle sera présidente du conseil général de 1970 à 1982, et pareil, elle passera la main à qui ? À son fils, Jean-Michel Bellet.
Alors, en parallèle de cette histoire, il faut bien comprendre que l'entreprise familiale, au-delà de la politique, c'est le groupe La Dépêche. Et donc, ce qui est intéressant, puisque Roger Kuckermann expliquait que c'était le Front National et ses ancêtres qui avaient collaboré pendant la guerre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que La Dépêche du Midi pendant la guerre a été un journal collaborationniste. Par exemple, Jean Bellet, donc le père de Jean-Michel Bellet, était au comité d'organisation de la presse créé par le gouvernement Pétain-Laval et qui siégeait à Vichy. À tel point, alors il a été déporté à la fin de la guerre, mais malgré tout, parce que bon, c'est une période un peu compliquée, mais à la fin de la guerre, les installations du journal sont mises
sous séquestre.
Et le journal est interdit de reparaître. Sauf que...
Ils attendent 1947 pour 1947. Quand même après relancer le journal.
Voilà, alors c'est des gens qui sont dans la plus pure tradition radicale socialiste. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que qui va reprendre La Dépêche du Midi au décès de Jean Bellet aux côtés d'Evelyne Isaac, c'est un certain...
René Bousquet.
Qui était...
Secrétaire général de la police sous Vichy.
Voilà. Et donc, le ticket Evelyne Isaac, René Bousquet, va soutenir François Mitterrand, notamment contre De Gaulle, lors des élections présidentielles de 65. Et il a été dit que René Bousquet était le véritable administrateur de la Dépêche du Midi. Alors la Dépêche du Midi, c'est un groupe très important. Hein. C'est la Dépêche du Midi, le Midi Olympique, la Nouvelle République des Pyrénées, le Petit Bleu d'Agen, le Villefranchois, la Gazette de Comminges, le Midi Libre, etc. Donc il y a énormément de... C'est le 48e groupe de médias en France. C'est 132 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'est vraiment très très important. Et lorsque va éclater l'affaire René Bousquet dans les années 90... À ce moment-là, les liens entre Evelyne Isaac, donc la mère de Jean-Michel Bellet, et René Bousquet étant tels que la rumeur va courir dans Paris que Jean-Michel Bellet serait le fils de René Bousquet. Et depuis les années 90, donc Jean-Michel Bellet dirige le groupe La Dépêche du Midi d'une main de fer.
Oui, en fait, ce qu'il faut noter, c'est la force du groupe La Dépêche. C'est qu'on ne se rend pas compte, c'est que localement, Le journal peut faire et défaire les élus locaux. C'est-à-dire que si vous passez dedans, bah, ça vous fait une pub énorme. Mais au pire, si vous descendent, vous êtes fini, quoi. Il y a un vrai pouvoir. Donc, mais ça, on s'en rend pas compte. Parce qu'à Paris, bon, la presse est plus généraliste. Mais dès qu'on va dans des journaux de province, on sait on se rend compte de la force des journaux locaux. Quoi.
Et c'est pour ça qu'il faut peut-être un état d'urgence sur Internet, parce que des affaires comme la Dépêche du Midi pourraient baisser en influence avec l'émergence des réseaux sociaux où les gens pourraient s'informer par eux-mêmes.
Notons que la dynastie va se perpétuer, puisque Jean-Michel Baillet a 3 enfants, dont Jean-Nicolas, directeur général adjoint et directeur de la publication de la Dépêche du Midi, et Jean-Benoît, qui copossède la société Viking avec sa mère. Donc on voit bien là que sont, effectivement, c'est ce que tu disais Vincent, des dynasties.
Quand Jean-Michel Baillet est rentré au gouvernement, c'est Marie-France Marchand, donc l'ex-épouse de Jean-Michel Baillet, qui a pris la direction du groupe La Dépêche. Ce qui est assez amusant, c'est que depuis, elle est en couple avec Laurent Fabius. Donc voilà, c'est vraiment un petit monde. Alors on notera que Jean-Michel Baillet, il voulait rentrer au gouvernement depuis de très longues dates. Il avait été plusieurs fois secrétaire d'État, ministre dans les années 80, et que avec l'arrivée de François Hollande au pouvoir, il espérait un Marocain depuis 2012. Sauf que François Hollande, dans ses mois président, avait expliqué qu'il voulait pas de ministre qui a été poursuivi devant la justice. Or, au précédent remaniement, comme au début du mandat, Jean-Michel Baillet était impliqué dans des affaires de favoritisme, donc c'est une affaire pour laquelle il a été relâché, et puis en 2014, c'était une affaire de frais de bouche, et là il a bénéficié donc d'une ordonnance de non-lieu. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a fini le portrait, Jean-Michel Baillet venait d'être nommé, et en fait il y a une affaire de... qui remonte au début des années 2000, de violence sur une de ses maîtresses qui aurait été son assistante parlementaire. Un article important était paru en 2007 dans un site qui a depuis disparu, qui s'appelait Bakchich Info. Et alors l'article avait été condamné non pas pour diffamation, mais pour atteinte à la vie privée. Et alors quand il a été nommé, un certain nombre d'articles sont sortis sur Internet, notamment je crois sur BuzzFeed, pour rappeler cette affaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les protections sont telles que l'article, ou en tout cas cette information n'a pas passé la barrière des médias, de radio et télévision. Donc il y aura pas d'affaire Jean-Michel Baillet. Alors évidemment, bon, pour préciser, évidemment Jean-Michel Baillet est membre du Grand Orient de France. Il est à la loge Demain, je crois, où il a été initié en 90, et puis évidemment, il est pro-israélien, et ainsi de suite. Donc voilà.
Voilà l'histoire de notre ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, Jean-Michel Baillet.
On explique ça pour bien rappeler que c'est pas le Front National qui a collaboré avec le régime de Vichy et le maréchal Pétain, mais par exemple, si Roger Cukierman cherche vraiment des coupables de la collaboration, faudrait qu'il regarde du côté de la famille de Jean-Michel Baillet.
Et je crois savoir que même les époux Klarsfeld, Xavier, ont leur avis sur la famille Baillet.
Ben oui, justement, dans leur mémoire, Serge et Beate Klarsfeld écrivent que Madame Baillet, donc Evelyne Isaac, propriétaire de la Dépêche du Midi, que dirige en fait à cette époque son ami René Bousquet, donc eux disent carrément que c'est René Bousquet qui dirige, je reprends, menace de représailles la LICA, donc l'ancêtre de la LICRA, et nous envoie quelques avocats nous sommant de nous rétracter. En vain, quelques années plus tard, quand le moment sera venu de faire comprendre aux Français quel fut le crime de Vichy, nous nous attaquerons de nouveau à Bousquet.
Alors Xavier, il y a un autre personnage dont vous faites le portrait dans le Fédoc numéro 413, c'est Dounia Bouzard. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce personnage, Xavier ?
Alors Dounia Bouzard, ça vous évoque peut-être pas grand-chose. Alors pour vous situer, c'est cette dame blonde avec un bandeau noir que vous avez certainement vu à la télé et qui vient parler justement des problèmes de radicalisation. Alors déjà, on va pas revenir sur ce terme puisque radical, c'est ce qui ça vient du latin radix, donc la racine, et ça fait référence à l'essence de quelque chose. Donc le terme de radicalisation, déradicalisation est déjà très très abusif. Mais bon, en prenant ce terme comme valable, le problème de la déradicalisation s'est imposé avec le phénomène du djihad. Et cette Dounia Bouzard s'est imposée auprès des pouvoirs publics comme étant le numéro 1 de la déradicalisation. Et quand le gouvernement a mis en place un numéro vert, si votre fils se radicalise, appelez le numéro vert, et ben en fait, le gouvernement vous envoie, vous envoyez, on va expliquer pourquoi ce n'est plus le cas, Dounia Bouzard, chez vous, un peu comme une sorte de super nanny pour déradicaliser votre enfant.
Oui, et tout ça avec des subventions. Donc c'est ça qui est intéressant, voilà, c'était nous dans le portrait de développer ça, de montrer que c'est une PME familiale qui touche des subventions.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a été repérée, alors déjà, bon, elle s'appelle Dounia Bouzard, en fait elle s'appelle Dominique Bouzard, parce qu'elle a été élevée par sa mère qui est corse, elle ne s'est convertie à l'islam qu'à l'âge de 30 ans, donc c'est pas vraiment une musulmane...
Abandonnée par son père,
voilà,
qui donc... a quitté le foyer.
Donc ça, c'est les aléas du métissage dont on nous explique que c'est formidable. Et donc, elle travaillait, si vous voulez, comme assistante à la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire dans les prisons du Nord pour faire rééduquer les délinquants par le théâtre, ce genre de choses. Et elle a été repérée par Nicolas Sarkozy dans la période 2002-2003. Alors à l'époque, elle venait de sortir un livre qui s'appelait « L'islam des banlieues, les prédicateurs musulmans, nouveaux travailleurs sociaux ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, elle apparaît comme assez proche des frères musulmans et de l'UOIF, puisqu'elle présente Tariq Ramadan ou Hassan Iqiyoussen, dont nous relayons certaines conférences sur le site d'Égalité et Réconciliation, comme ceux qui aident les jeunes à prendre conscience de tout ce qui les constitue et à inscrire leur histoire individuelle dans l'histoire collective de leur pays d'accueil et de leur pays d'origine. Et donc, bon, Dounia Bouzard, elle arrive à ce moment-là au Conseil français du culte musulman, et puis finalement, trouvant que les choses n'avancent pas assez, elle s'en écarte assez rapidement en 2005, et à ce moment-là, on la voit apparaître dans un nombre important de loges maçonniques, notamment aux droits humains, à la Grande Loge Mixte Universelle, à la Grande Loge de France, et ainsi de suite. Et elle prend, au fur et à mesure, elle devient vraiment quelqu'un, un interlocuteur régulier des pouvoirs publics sur les questions de l'islam, de république, de laïcité. En plus, elle se dit féministe. Alors Sarkozy avait dit à l'époque, voilà le visage qui va faire aimer l'islam aux Français. Donc voilà, donc c'est vraiment parfait. Et donc, elle est contactée par un certain nombre de partis politiques et elle passe une thèse de doctorat, elle devient anthropologue du fait religieux, parce qu'il faut toujours des titres ronflants pour passer à la télé, et elle est sollicitée par l'UMP, le PS, pour éventuellement être candidat et candidate et ainsi de suite. Et elle préfère monter un cabinet. Donc c'est vrai que c'est un créneau qui est très très porteur, qui est le conseil en gestion de la diversité religieuse en entreprise. Alors ça, c'est vraiment un créneau très porteur, parce que avec le multiculturalisme et la mondialisation, on se retrouve avec des équipes en entreprise qui peuvent être constituées avec des fois la moitié de musulmans, la moitié d'athées, parfois des asiatiques, des gens du sous-continent indien. Donc la mondialisation produit ce secteur d'activité qui est la gestion de la diversité religieuse. Donc elle va intervenir dans des entreprises très importantes comme EDF, Disneyland Paris, L'Oréal, Randstad, IBM, la RATP, Air France. Elle intervient également au MEDEF, dans les syndicats, comme Solidaire. Donc vraiment, on la retrouve partout. Et cette entreprise est une entreprise familiale.
Vincent ?
Oui, parce qu'on y retrouve donc sa fille Aurélie Luc, et d'ailleurs qui se fait appeler Lilia Bouzard, et son autre fille qui s'appelle Laura Mafoudi, et qui se fait appeler maintenant Laura Bouzard.
Et on retrouve également sa mère, qui est donc une prof, une universitaire en mathématiques en retraite, qui est également au conseil d'administration de l'entreprise.
Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est plus d'un demi-million d'euros par an de subventions publiques.
Mais dernièrement, il y a eu malgré tout une rupture avec le gouvernement.
Voilà, alors il y a eu une rupture avec le gouvernement qui est une rupture intéressante et qu'il faut analyser par la redéfinition de la laïcité qui s'est opérée notamment depuis les attentats du 13 novembre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dounia Bouzard était membre de l'Observatoire de la laïcité, donc l'instance dirigée par Jean-Louis Bianco et placée sous l'autorité de Manuel Valls, et que l'Observatoire de la laïcité a été recadré notamment par Manuel Valls lors d'une conférence des Amis du CRIF, a été recadré par le comité laïcité république, qui est la courroie de transmission du Grand Orient de France et qui est dirigé par Jean Glavany, et pour finir, a été aussi recadré par Elisabeth Badinter, qui a décrété qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Et Dounia Bouzard, qui avait occupé le créneau de la déradicalisation dans l'ancien discours, qui était que l'appartenance ou les gens qui rejoignaient Daesh avaient une démarche qui relevait de la dérive sectaire. Or, ce discours, aujourd'hui, est passé complètement à la trappe. Et là, on rejoint la nouvelle conception de la laïcité, et notamment les musulmans qui sont aujourd'hui cooptés pour parler dans les médias, parce qu'on observe qu'il y a une redéfinition complète. Par exemple, on voit plus Hassan Chalgoumi, on voit plus un certain nombre de gens qu'on pouvait voir avant. Par exemple, Tariq Ramadan est complètement blacklisté. Et donc, Dounia Bouzard, là, vous l'avez beaucoup vu, mais vous la verrez moins. Et à la place, vous allez voir des gens qui, pour le coup, sont des musulmans islamophobe. Alors, j'aimerais bien préciser quelque chose sur le terme d'islamophobe, c'est que ce terme a été proscrit du discours officiel depuis les attentats de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais un responsable politique de haut niveau, c'est-à-dire de l'arc républicain ou du CRIF, c'est comme vous voulez, qui emploie le terme d'islamophobe, parce que ce terme a été banni. Et notamment Gilles Clavreul, qui dirige la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, explique sans arrêt qu'il ne faut plus utiliser ce terme. Donc, bon, alors admet, on va quand même l'utiliser, puisqu'on n'a plus le droit de l'utiliser. Et on voit des musulmans cooptés, comme notamment Boualem Sansal, qui était l'invité d'honneur de la conférence de la LICRA, qui a écrit 2084, qui est une sorte de 1984 sous une dictature islamique à la manière d'un Michel Houellebecq
dans Soumission.
Voilà, mais en aggravé. Là, on voit par exemple Zineb El Razoui, qui sort, qui était Charlie Hebdo, et qui sort un livre dans une maison d'édition qui est plutôt étiquetée de droite nationale, qui est la maison d'édition Ring, et qui va faire la tournée des médias. On voit l'affaire aussi Kamel Daoud, qui a eu des propos extrêmement sévères, donc un écrivain algérien qui a eu des propos extrêmement sévères sur la place des femmes dans l'islam, qui a été donc dénoncé par un collectif de gauche, d'universitaires de gauche, et qui a derrière été soutenu par des gens comme Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut. Donc là, on voit émerger, et c'est le fruit aussi d'un vrai travail, de musulmans qui vont porter une parole anti-musulmane dans les médias. Et ça, c'est ce qu'on va voir à un an de la présidentielle, avec l'impératif de se soumettre aux standards occidentaux.
Pour revenir rapidement sur Jean-Michel Baillet, vous mentionnez un détail insolite dans votre fait doc numéro 413. C'est le fait que Jean-Michel Baillet fait rédiger aux fonctionnaires de son ministère des communiqués de presse pour relayer ses propres tweets. Vincent ?
Oui, voilà, c'est juste un document, voilà, qui était envoyé à la presse, qui disait « Veuillez trouver 6 juin le tweet du ministre ». Voilà, c'est la première fois qu'on voit ça.
C'est absolument ridicule. Et toujours pour rester sur les tweets, on a un tweet d'Alain Juppé. Donc là, je vais le citer. « Il ne faut pas succomber à ce fantasme que nous serions submergés par un flot de migrants. » Alors Xavier, concernant Juppé, est-ce que toi tu as des pronostics sur la présidentielle 2017?
Non, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui le discours officiel du Parti Socialiste, notamment via le ministre de la Ville, Patrick Kanner, c'est qu'il y a une centaine de Molenbeek en France, donc le remplacement de population, en quelque sorte, est validé, y compris par le ministère de la Ville. Alors, il faut bien comprendre que le ministère de la Ville, normalement, c'est le ministère qui distribue le pognon aux gens qui ont voté. Donc, c'est le ministère qui doit gérer les habitants de ces fameux Molenbeek. Donc, le discours officiel du Parti Socialiste est aujourd'hui un durcissement vis-à-vis de la laïcité, de la reconnaissance pratiquement du remplacement de population. Et là-dessus, on a le candidat favori de la primaire à droite, donc Alain Juppé, qui nous fait le coup du sentiment d'immigration, quoi. C'est-à-dire que il ne faut pas succomber à ce fantasme. Donc c'est un fantasme que nous serions submergés par un flot de migrants. Enfin, je veux dire, il suffit de sortir dans la rue, quoi. Et ce qui est intéressant et ce qui est en même temps tragique, c'est qu'Alain Juppé, alors on peut jamais faire de réels pronostics à un an de la présidentielle, parce qu'il se passe toujours quelque chose. La dernière fois, il y a eu l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Mais en principe, ce sera quand même lui le prochain président, parce que les gens n'en peuvent plus de ce gouvernement, et surtout parce qu'il y a une surimportance en France de la mobilisation de l'électorat des seniors. C'est-à-dire que les seniors représentent une part énorme de l'électorat, et en plus, ils se déplacent. Et les seniors vont évidemment vers Alain Juppé, qui en plus va aussi ratisser les voix de la bourgeoisie trentenaire, quarantenaire, des centres-villes un peu nostalgiques de Jacques Chirac. Donc Alain Juppé, futur président en 2017, est certainement plus à gauche que le Parti Socialiste.
Je rappelle à nos auditeurs que dans Faits et Documents, vous traitez également de questions internationales et en l'occurrence de Donald Trump. Alors il y a quelque chose de paradoxal qui ressort à la lecture des deux derniers Faits et Documents, 412 et 413. Dans le 412, vous expliquez que Donald Trump est accusé de nazisme et dans le 413, vous montrez que lors de la réunion de l'AIPAC, Donald Trump, au contraire, a donné beaucoup de gages à la communauté juive américaine. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'il en est ?
Oui, ce qui est intéressant, ce discours a été également relayé sur le site d'Égalité et Réconciliation et a entraîné beaucoup de commentaires. Ce qui est intéressant, c'est que il est face à une entreprise de diabolisation qui est assez importante, c'est-à-dire qu'il est déjà comparé à Adolf Hitler, l'argument principal étant: imaginez, si jamais il devient président de la République des États-Unis, il aura la bombe atomique, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une campagne de diabolisation très forte. Et il faut savoir que la dernière fois qu'il était passé devant des organisations communautaires juives américaines, il avait expliqué qu'il n'était pas leur candidat parce qu'il avait suffisamment d'argent pour être libre. Et
oui, surtout qu'il avait eu le soutien de Farrakhan, de David Duke, même Jean-Marie Le Pen avait fait un tweet qui le soutenait. Mais d'un autre côté, donc...
Et donc là, il arrive devant les PAC et il donne des gages. C'est-à-dire qu'il avait refusé de se positionner sur la politique internationale, il avait dit qu'il fallait pas bombarder Kadhafi, il avait rien dit sur le conflit israélo-palestinien, même si c'était dit quand même plutôt pro-israélien. Et là, il a déroulé tout ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que si vous êtes un politique français et que vous voulez faire carrière, et ben vous reprenez le discours de Trump, c'est-à-dire soutien inconditionnel à Israël, Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, l'Iran, le sponsor numéro un du terrorisme mondial, et ainsi de suite. Et il a conclu sous une ovation, sous une standing ovation, en expliquant que sa fille attendait un magnifique bébé juif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été une ovation, et notamment les candidats qui parlent donc devant les PAC, donc ça a été Hillary Clinton et Donald Trump, vendent dans des stands des kippas avec leur nom dessus. Et c'est la kippa Donald Trump qui s'est arrachée à cette réunion de l'EPAC. Alors, il est aussi possible que la base de l'EPAC soit pro-Trump, alors que le sommet soit fondamentalement anti-Trump, puisque le lendemain, l'EPAC a pondu un communiqué pour dire que le discours de Donald Trump avait divisé la communauté juive américaine. Donc, ce qu'il faut analyser, c'est un épisode important de la campagne, il faut l'analyser comme un épisode important de la campagne de Donald Trump. Il y en aura d'autres. La diabolisation n'est pas prête de s'arrêter. En tout cas, il a donné certains gages.
Faits et documents, je rappelle à nos auditeurs que la lettre d'information fondée par Emmanuel Ratier est disponible via internet sur le site faitsetdocuments.com et également à la librairie Facta à Paris. Vincent ?
Oui, c'est ça. Donc, sur notre site faitsetdocuments.com et donc à la librairie Facta du mardi au samedi, midi 19h. 4 rue de Clichy.
Une lettre réputée pour être extrêmement bien informée, ça fourmille d'informations inédites hein, qu'on ne lit pas ailleurs, notamment les sujets traités dans les loges maçonniques, qui se rend à ces loges maçonniques.
Oui, voilà, on pense que c'est important voilà, de donner un peu les thèmes qui sont abordés, parce que c'est ça, en fait, le combat actuel, c'est de savoir qu'est-ce qui abordé en loge. Par exemple, là, dans le dernier numéro, un ou deux exemples frappants, c'est le Brieux-Pont qui est conseiller technique au cabinet du Premier ministre, donc de Valls, et le thème de sa planche, c'est « Quelle gouvernance mondiale ?». Donc voilà, ça donne une idée de leurs préoccupations. Et un autre exemple, c'est une planche de Sandrine Mastier, qui est députée et surtout donc vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui elle a planché sur définir l'identité nationale, mythe, utopie ou tabou point d'interrogation. Voilà. Donc nous, on pense que voilà, c'est important de le publier.
Et un aspect qui est rarement mentionné, c'est que cette lettre est très drôle, encore une fois très agréable à lire. Donc Xavier, Vincent, merci beaucoup pour votre travail colossal.
Bah, merci pour l'invitation.
Merci.
Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Voilà.
Avec Marion Sigo, il me semble.
Il me semble.
Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Mino Cerbès. Son album Nano est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter aujourd'hui le titre La Ferme. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Thank you.